qui nous apportera le conseil de Dieu. Que le Dieu le bénisse.
Amen.
Alléluia.
Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il semble que on distingue un sourire même au téléphone. Alors derrière ton masque, souris à ton frère. Dis-lui que tu es content de le voir. Je veux sentir des visages épanouis. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Il y a beaucoup de choses dans le monde. On parle de l'applaudimètre. Je voudrais qu'on fasse un standing ovation. C'est-à-dire debout et puis on acclame notre Dieu. Lève-toi et acclame ton Dieu. Lève-toi et acclame ton Dieu. Acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Acclame ton Dieu. N'arrête pas de l'acclamer. Acclame-le, il est capable de faire. Oh, béni soit ton éternel. Alléluia. Mon bien-aimé, tu sais, ton Dieu est riche. Ce n'est pas de ton argent. Ce n'est pas de toutes ces choses du monde que ton Dieu a besoin. Il a besoin de ton adoration. Est-ce que tu sais que ton acclamation est une adoration à ton Dieu? Si tu le sais, je veux que tu acclames encore ton Dieu. Et si même le temps est avancé, je voudrais encore qu'on adore notre Dieu. Groupe musical, peut-être que vous pouvez venir prendre votre poste. Alléluia. Oh, Jésus-Christ Nazareth.
Amen, amen.
Gloire. 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 Parole pour toi. Tu peux t'asseoir. Dispose ton cœur. Ton Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Ouvre ta Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20. Alléluia. Et nous allons lire ensemble une parabole que notre Seigneur nous a donnée. Alléluia. Puisse vos cœurs s'ouvrir pour recevoir cette semence. Alléluia. Matthieu chapitre 20. C'est écrit: car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il fit la même chose. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est parce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent chacun aussi un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Verset 13, il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. Alléluia. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Très belle parabole. Qui commence par « car le royaume des cieux ». Car, parce que ça veut dire que quelque chose s'est passé avant. Alors regardons-y, vous savez, il s'agissait donc du jeune homme riche. Voici un jeune homme qui était nanti, qui avait beaucoup de biens, et qui est venu auprès du Seigneur lui demandant ce qu'il faut qu'il fasse pour hériter le royaume de Dieu. Alors le Seigneur lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérogeras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et ton trésor se retrouvera dans le ciel. C'est ce que dit Jésus-Christ. Il ne demande pas de perdre son trésor, mais il demande qu'il transfère son trésor au ciel. Viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement. Pas qu'il soit impossible, un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais il entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Il voit effectivement une personne qui donne des biens, qui sème dans l'église, en tout cas qui participe de son argent, en tout cas de ses biens, de son temps, qui pardonne, qui fait des choses vraiment qui sont, j'allais dire, dignes. Et Jésus-Christ propose un dernier élément à cet homme. Vends tout tes biens et puis cet homme est froissé, est triste, parce que ses biens sont tellement importants qu'il accepte de franchir le pas. Alors Jésus-Christ dit qu'il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et vraiment, cette réflexion a intrigué les disciples de Jésus-Christ. Ils se disent, mais dis donc, sers le Seigneur. Qu'est-ce qui pourra nous empêcher dans le royaume des cieux? Je pense que cette question a tourmenté, cette parabole a tourmenté, en tout cas la réaction de Jésus-Christ les a vraiment tourmentés. Et ils avaient cette qualité de poser des questions à Jésus-Christ. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui n'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Ah, j'imagine que cette parole a rassuré quand même les disciples. Ils se disent, ah, ben quand même, effectivement, ah ben moi j'étais pêcheur, parce qu'il y a certains, Pierre, ils étaient pêcheurs, ils avaient leur entreprise, ils ont tout abandonné, et puis ils ont décidé de suivre le Seigneur. Donc ils se disent, ah, le Seigneur est en train de nous dire que nous, on sera sauvés, il n'y a pas de problème. Donc j'imagine un peu leur joie, ce qui est légitime. Et le Seigneur dit une phrase qui va peut-être les troubler encore davantage. Verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors ils se disent, mais dis donc, qu'est-ce que ça signifie au bout du compte? Parce que vraiment, c'était un peu troublant. Il nous dit que, bon, ben écoutez, nous qui avons été les premiers à être à ses côtés, qui avons tout laissé, on a une place assurée, et à la fin, il nous dit que les premiers seront les derniers. Alors, c'est ce qui explique. Donc, Jésus-Christ, pour éclairer les choses, donne la parabole qui suit, qui est au verset 20 que nous avons lu. Plusieurs choses. Plusieurs choses. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Jésus-Christ aimait beaucoup les paraboles. Et les paraboles ont l'avantage de dresser un tableau. Et sont ouverts. Un tableau vraiment qui est ouvert à plusieurs niveaux de compréhension. Donc il dit que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Tôt le matin, dès 6 heures, le maître est sorti. Il avait un objectif clair dans sa tête. Dans sa tête, il avait une plantation, une vigne, et il avait besoin d'ouvriers. Donc il va sur la place, il trouve des personnes, il les appelle, le nombre de personnes qui convient pour aller œuvrer dans sa vigne. Il les appelle, il convient avec eux d'un salaire. Il signe un contrat avec eux. La Bible dit clairement, il convient avec eux d'un denier par jour et les envoie dans sa vigne. Ce denier était certainement le salaire juste. Il n'y a pas eu de moment de négociation, ils ne se sont pas plaints. Donc certainement, c'était ce qui convenait pour une journée de travail. Alors, il convient d'un contrat et puis il leur donne la destination, le travail à faire, allez-y, à ma vigne. Amen. Et il sortit vers la troisième heure, qui correspond à peu près à 9 heures, qui correspond à 9 heures. Certainement, peut-être, voilà, acheter son journal. Ou bien encore, je ne sais pas, moi, il allait prendre des nouvelles. Et il traverse la place du village. Et il trouve encore des personnes qui sont sur la place du village. Et il leur dit, pourquoi est-ce que vous restez sur la place sans rien faire? Ça veut dire que ce n'est plus son besoin d'ouvrier qui le pousse à intervenir ceux qui sont sur la place du village. Mais c'est l'oisivité de ces gens-là qui l'interpelle. Et quand on parle de ce fait de ne rien faire, probablement ils jouaient aux cartes, il y a d'autres qui discutaient de politique, il y a d'autres qui jouaient à la belote, il y a d'autres qui jouaient aux dames, je ne sais pas. Ils étaient occupés, mais ne faisaient pas ce qu'il convenait de faire. Parce que ça m'étonnerait qu'ils aient été momifiés. Ils étaient tous là, ils discutaient, ils s'occupaient. Mais ce qu'ils faisaient n'était pas ce à quoi le maître devait s'attendre. Alors il trouve qu'il ne faisait rien. Est-ce que l'œuvre que tu fais est quelquefois utile? Ou si elle est utile à quoi? Est-ce que ce à quoi tu t'occupes, ce à quoi tu consacres ton temps, est utile? Est-ce que c'est utile à Dieu? Est-ce que c'est utile au maître? Est-ce que c'est utile à celui qui donne un salaire? Est-ce que c'est utile à celui qui rémunère? Comment occupes-tu ton temps? À qui consacres-tu ton temps? Amen. Alors le maître les invite à aller aussi sur sa plantation pour y travailler. Et il leur dit, je vous donnerai ce qui est convenable. C'est un contrat, mais qui est du moins curieux. Je sais que si quelqu'un te dit, écoute, va travailler pour moi et puis je vais te donner ce qui est convenable, tu dis, mais convenable, ça signifie quoi précisément? Parce qu'il faut préciser quand même les choses. Mais ils ne discutent pas. Et puis ils vont œuvrer. Et le maître ressort encore et encore. Et chaque fois, il trouve des gens sur la place du village. Et au dernier qui joue sur la place du village, il ne parle même plus d'un contrat. Il a dit, mais écoutez, allez-y, allez travailler, ne restez pas là. Et ils vont, ils travaillent. Tout le monde se met à l'œuvre, ils travaillent dans la plantation. Mais j'imagine que les travailleurs se regardaient du coin de l'œil. Oh, peut-être qu'il y a certains qui organisaient le travail. Bon, écoutez, vous venez d'arriver, écoutez, avec tout ce qui a été coupé, vous le ramassez, vous le mettez au feu. En tout cas, il y avait de quoi faire. Mais dans l'esprit des uns et des autres, il y a une forme de ségrégation qui s'est installée. Tu disais, ah ben ceux-là, vraiment, il arrive bien tard quand même. Hein. On a commencé à bosser depuis l'aurore. Bon, dans tous les cas, on verra bien. Bon, certainement, ils seront rémunérés à la hauteur de leur travail. Oh, c'est toujours important qu'ils viennent, qu'ils travaillent. Alors, le plus curieux, c'est qu'à la 11e heure, ça veut dire franchement à la fin de la journée, c'est à 17 heures, il sort encore, il revient encore avec des travailleurs. Et bien sûr, là, franchement, bon, écoute, il bosse. Et à la fin de la journée, le Seigneur décide de. Il appelle son comptable et dit bon, ben, paie les ouvriers. Mais quelque chose qui est curieux, il demande qu'on paie les derniers venus avant ceux qui sont arrivés dès 6 heures du matin. Dans la logique, il aurait été plus judicieux de payer ceux qui sont plus fatigués pour qu'ils s'en aillent. Mais le Seigneur voulait certainement donner une leçon. Alors, il rémunère ceux qui sont arrivés en dernier. Et il donne à chacun un denier. À ceux qui sont arrivés en dernier, un denier. Ah, j'imagine le sourire de ceux qui sont arrivés à 6 heures. Il a dit, mais enfin, s'il a donné un denier à celui qui a travaillé une heure, et que moi j'en ai fait 7 ou machin, certainement, bon, ben, ça va faire un denier fois 7. Et ben, les calculs, ah ben, bon, j'imagine que je vais avoir peut-être, off au bas mot, peut-être, je sais pas, 8 deniers. Bon, c'est pas mal. Et curieusement, le maître donne un denier à tout le monde. Ah ben, ça suscite des murmures. Comme ça aurait suscité des murmures pour chacun de nous. Parce que notre logique comptable fait que nous multiplions notre effort, j'allais dire, en tout cas notre temps de travail, par la rémunération qu'on pourrait donner. On fait des comparaisons. On trouve que ce serait juste que celui qui est arrivé en premier dans un travail ait une rémunération plus importante. D'ailleurs, un comptable dirait à ce maître-là, mais qui a donné cette consigne de payer autant celui qui vient à peine d'arriver que celui qui a fait 7 heures, mais écoute, tu as de l'argent à jeter. Celui-là ne mérite pas d'avoir autant. Mathématiquement, franchement, tu n'es pas un très bon gestionnaire parce que franchement, tu jettes de l'argent. Amen. Mais ici, il s'agit de la vigne du Seigneur. Il s'agit de la vigne du Seigneur. Et le Seigneur, j'imagine qu'il y avait celui qui intervenait, le Christ était le chef du syndicat, hein, des travailleurs. Nous autres qui sommes syndicalistes, on s'est revendiqué. Il a dit, ah non, mais Seigneur, ça franchement, c'est injuste. Voilà, c'est injuste parce que nous, ça fait déjà des heures qu'on bosse. Si tu as vu la peine, tu leur donnes autant qu'à nous. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors le Seigneur le reprend en toute douceur. En appelant même mon ami. Question de baisser, de calmer les esprits. Nous avons convenu d'un salaire. Ai-je manqué au contrat que j'ai signé avec toi? Ai-je dérogé à ce qui était convenu entre nous? Non? Non, non, mais tout de même, même si je n'ai pas dérogé, mais c'est, je pense quand même que ce n'est pas juste. M'empêcherais-tu de faire de mon bien ce que je veux? M'empêcherais-tu de faire de mon bien? Moi, je veux que je sois bon. Ça te gêne que je sois bon? Il me plaît de donner au dernier arrivé autant qu'à toi. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. C'est une logique bien spéciale, peu habituelle. Mais cela nous parle de notre vie spirituelle et de notre relation au Seigneur. Imaginons que le pasteur Pierre soit mécontent parce que certainement un qui était nozonné dans l'œuvre, ils ont ramé, ils ont travaillé, ils sont allés chercher des âmes. Quelquefois même pour construire l'église, ils ont dû mettre la main à la pâte, ils ont travaillé pendant de longues heures. Et plus tard, quand l'édifice est déjà fait, quand les organisations sont mises en place, il y a certaines qui viennent, qui bénéficient de la parole. Et à la fin, le Seigneur décide de rémunérer. Et le pasteur sera triste de ce que le Seigneur bénisse les âmes qui sont venues. Le pasteur est triste parce que le Seigneur ne donne pas plus, ne sauve pas, ne sauve pas plus que les autres. Il serait triste parce qu'il aurait fallu qu'ils aient plus de salut que les autres. Y a-t-il plus qu'un salut? Ou y a-t-il un seul salut? Dois-tu être triste de ce que tu as été dévancé? Crois-tu que l'œuvre que tu as faite est le fait de ta propre force? Dois-tu être jaloux de ce que tu as apporté quelque chose à quelqu'un? Nous sommes des parents, pour l'essentiel d'entre nous. Pour les plus jeunes aussi, je vous le souhaite. Pourquoi un père, une mère, œuvre pour laisser un héritage? Et quel est l'avantage d'un héritage? Ça permet de raccourcir le chemin de certains, ceux qui viennent après. Alléluia. Enfant de Dieu, la parole va t'amener à réfléchir ce matin. Et quand Christ parle, il s'adresse à l'Église. Vous savez, l'esprit de communion, l'esprit d'entraide, l'esprit de collaboration, l'esprit qui veut réunir doit être la marque de l'Église. Et nous recherchons tous une seule chose. Nous recherchons le salut des âmes. Et Dieu ne sauve pas différemment. La Bible dit que nos aînés qui ont signé une alliance, ou une alliance avec Dieu, les Abraham, ils ont vu la bénédiction quelquefois de loin, sans la toucher. Ils l'ont vu de loin sans la toucher. Si Dieu te fait la grâce d'être dévancé dans une œuvre, c'est pour que tu puisses tendre la main aux autres. Amen. Frère, cette parole aussi nous parle de ton témoignage et en quoi ton témoignage est utile pour tes frères, pour tes sœurs. Un enfant de Dieu doit avoir un témoignage. Et le témoignage que tu transmets, c'est pour que celui qui vient avec toi ne fasse pas des détours, mais qu'il gagne du temps dans sa marche avec Dieu. Amen. Frère, Dieu veut t'interpeller. Dieu veut que tu examines ton cœur en tant qu'enfant de Dieu. Il peut se faire que les circonstances de la vie t'ont éloigné du chemin de Dieu. Mais alors, quand le Seigneur parle à ton âme par son esprit et que tu reviens sur tes pas, quel accueil la communauté doit te réserver? La communauté se doit de t'entourer au plus vite pour que tu reviennes au lieu où le Seigneur t'entend. Amen. Et la Bible donne une image dans le psaume, je crois, 133, où il parle de Aaron, le sacrificateur, le souverain sacrificateur. On dit que l'huile qui est mise sur sa tête coule sur son visage, sur son front, descend sur ses vêtements. Et puis, mouille ses vêtements et ensuite les autres en bénéficient. Et la parole dit que c'est à cet endroit-là qu'il y a la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction est un lieu. La bénédiction est un endroit. C'est l'endroit de la communion fraternelle. C'est là où on est réunis autour du Seigneur. La grâce qui est mise sur la tête coule et descend sur chacun et il reçoit cette grâce. Ne sois pas, enfant de Dieu, alors fermé, que ton cœur s'ouvre. On connaît un peu toute la mentalité qu'il y a dans l'environnement, j'allais dire professionnel, où beaucoup de jalousie s'installe. Des concurrences quelquefois inutiles. Tu conviens d'un contrat, moi je travaille un peu dans cet environnement-là. La semaine dernière seulement, il y a certains ouvriers qui manifestaient tout leur mécontentement parce que les cadres avaient une prime en fin d'année que eux, ils n'avaient pas. Alors pour eux, c'est injuste. Je dis soit. Mais est-ce que c'était dans votre contrat? Est-ce que le contrat que le patron a signé avec vous n'a pas été honoré? Parce que c'est là-dessus qu'on pourrait attaquer le patron. Mais en l'occurrence, tu n'as pas de part variable dans ton contrat. Ça veut dire que tu as des objectifs, celui qui a une part, qui a une prime, il a un objectif à atteindre. Tu n'as pas cette exigence. Oh oui, le patron pourrait dans sa générosité le faire, mais pour l'instant, il n'a pas fait. Il n'est pas injuste. Parce qu'il a juste respecté les termes de son contrat. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de choses qu'on vit comme des injustices. Et pourtant, notre Dieu veut qu'on ait une perspective claire quand on est enfant de Dieu. Amen. Ton Dieu veut que tu aies une perspective claire quand tu es enfant de Dieu. Et j'allais dire, pourquoi est-ce que le Seigneur appelle des ouvriers et des ouvriers, j'allais dire le mettre en l'occurrence ici, des ouvriers et des ouvriers. Tous les jours, en tout cas, moi je prie pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Vous avez commencé l'œuvre. L'œuvre prend de l'importance. Il faut des mains. Alléluia. Il faut des mains. C'est normal que la fin, puisque la Bible dit que le temps est fixé, que tous ceux qui arrivent vers la fin en fassent moins, alléluia, que ceux qui ont commencé. Mais l'important, c'est qu'ils soient tous dedans à œuvrer, chacun faisant une part C'est ce que le Seigneur choisit pour multiplier, pour gagner du temps, pour toucher davantage de personnes. Alors quel regard as-tu véritablement? Devrait-il avoir dans l'Église ce genre de frustration? Non, bien au contraire. Et je sais que chaque homme de Dieu prie pour qu'il y ait des ouvriers et des ouvriers. Parce que la moisson est abondante. Mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est Dieu qui demande qu'on prie le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Amen. Amen. Alléluia. Frères, prions pour qu'il y ait des ouvriers. Même s'il y a certains qui arrivaient à la 24e heure. Ce serait utile à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, si aujourd'hui, tu entends la voix du Seigneur. Si aujourd'hui, tu entends la voix du Seigneur, il faut un aujourd'hui. Ce n'est pas de demain qu'il s'agit. Il s'agit qu'il y ait de plus en plus de personnes qui annoncent en sorte qu'il y ait un aujourd'hui pour quelqu'un. Il faut qu'il y ait un aujourd'hui pour toi. La Bible dit que si tu entends la voix du Seigneur, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Et nous sommes disséminés dans le monde. Il faut des ouvriers. Quel que soit le temps qu'ils auront mis à l'œuvre, le principal, c'est qu'ils soient à l'œuvre. Le principal, c'est qu'ils soient à l'œuvre. Alors, frère, si tu es devant moi, sache que tu es un ouvrier du Seigneur. Le Seigneur t'appelle à annoncer aujourd'hui sa parole à quelqu'un qui doit l'accepter aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. Alléluia. Demain ne nous appartient pas. Pendant qu'il fait encore jour, faisons l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il est encore temps. Vous savez, Dieu a promis Canaan au peuple d'Israël. Et donc, il y a eu tout ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse. Dieu a fait des miracles. Ils ont tourné. La Bible dit que leurs chaussures ne sont pas usées, leurs vêtements, il a nourri le peuple de Dieu. Et après, le peuple était tellement rebelle que le Seigneur a dit, aucun de ceux-là n'entrera à Canaan. Amen. Seul Josué et, comment s'appelle, et Caleb ont conduit le peuple à Canaan. Et quand le peuple est arrivé à Canaan, dans le lieu de la bénédiction, le peuple n'a pas pu s'empêcher encore de pécher. Amen. Le peuple n'a pas pu encore s'empêcher de pécher. Alors qu'ils étaient dans le repos qui est le sabbat. Alors le Seigneur trouve encore une perspective, ouvre encore une perspective qui est l'aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi. Dieu a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et quand il a fait, le monde était parfait. Ça veut dire que c'est une œuvre achevée. Mais à cause du péché, le travail devient par un travail continu. Alors le Seigneur te dit que si tu entends la voix du Seigneur, si tu entends le Saint-Esprit à ton oreille, qui te convainc de donner ton corps à Jésus, ne te comporte pas comme ceux qui ont été rebelles dans le désert. La rébellion, c'est quoi? C'est la révolte. Tu reçois en ton cœur une parole où le Seigneur t'invite à œuvrer avec lui et tu résistes. Frère, ces propos ne sont pas lointains, ils nous concernent, chacun de nous. Oh, peut-être que tu as subi des frustrations dans le monde. Alors, tu es mécontent même de Dieu. Le monde te donne l'impression qu'il peut te proposer une solution meilleure. Non. Le monde de la séduction te propose un mirage. Il faut que tu le saches. Dieu te dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, accepte. Ne sois pas rebelle, enfant de Dieu. Ne sois pas rebelle. Accepte. Parce que tu sais, toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, ou toi qui vis en ce lieu, tu as une soif. Et cette soif-là, c'est juste celui qui donne cette eau vive qui fait que tu n'as jamais soif, qui le peut, c'est Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais que chacun prenne ses paroles vraiment au sérieux. Vous savez, sauf à être aveugle, vous voyez que le temps est avancé. Sauf à être aveugle. Et vous savez, on peut refuser de voir, c'est le rebelle qui a vu tous les miracles que Dieu a fait, mais qui se permet de fermer les yeux sur les miracles pour continuer à contester. Ça veut dire que c'est un acte volontaire de la rébellion. Ne sois pas un rebelle. Ce n'est pas à ton avantage. Dieu veut faire grâce. Dieu veut bénir. Dieu veut délivrer. Dieu veut te faire grâce. Il veut me faire grâce. Mais il faut que tu acceptes. Parce que le monde dit que aussi bon que Dieu est, il ne peut pas t'envoyer au paradis contre ton gré. Alors il y a une part que tu dois faire. C'est de résister à la rébellion qui te tient loin de la face de Dieu. C'est à cause de la rébellion des enfants de Dieu, des enfants d'Israël, que Dieu a ouvert encore la perspective pour que toi et moi, nous soyons enfants d'Abraham. En nous donnant aujourd'hui, le jour où tu as accepté le Seigneur. Frère, que ce jour soit marqué dans ta vie. Et prie pour que des âmes acceptent le Seigneur aujourd'hui. Parle du Seigneur aujourd'hui. Parce que tu ne sais ni le temps, tu ne sais ni le jour ni l'heure. Je vais laisser ces paroles encore sur notre cœur, enfant de Dieu. Sur nos cœurs à tous. Redoublons d'efforts. Parce qu'il y a des âmes. Vous voyez cela? Ils étaient sur la place, le village. Et le Seigneur dit, le maître dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, personne ne nous a appelés. Est-ce que chacun comprend ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes attendent d'être appelées, attendent qu'on leur donne une mission. Tu te dis, mais ceux-là ne veulent pas travailler, tu passes. Alors que lui, il attend que tu l'appelles. C'est l'évangélisation. Ne dis pas que celui-là, c'est un riche, n'acceptera pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas. Ne dis pas que celui-là, eh bien, dis donc, il me paraît trop nerveux, il n'acceptera pas la parole de Dieu. La Bible dit en tout temps, quelle que soit la circonstance, annonce. Dieu ne te demande pas de convaincre quelqu'un, il te dit d'annoncer la parole. C'est lui qui convainc le cœur. Je veux laisser ces paroles vraiment sur nos cœurs à nous tous. Nous recommençons encore une année, j'allais dire. Peut-être même si c'est l'année scolaire, mais vraiment, il y a un début nouveau qui naît. Il faut qu'on reparte encore, reprenne de l'énergie, parce que la marche doit redoubler vraiment de cadence. Parce que le temps est proche, bien-aimé. Le temps est proche. Tous les signes que le Seigneur a montrés, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Sauf à être rebelle, ouvrons les yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, voici ce que tu as mis sur mon cœur à partager avec mes frères, Seigneur. Je veux te dire merci, Père, pour cette parole, Père éternel. Seigneur, tu nous invites à œuvrer dans la communion fraternelle, dans l'amour, et à savoir que nous concourons tous à un même ouvrage. Point de jalousie, Père éternel. Au contraire, beaucoup d'amour, de l'entraide, de la solidarité et du travail, Père éternel. La moisson est vraiment grande. Seigneur, c'est toi qui armes les cœurs, qui armes les bras, armes encore des bras, Père. Pour que la moisson, Père, soit faite de façon vaillante et vigoureuse, nous avons besoin de ton secours. Que toute la gloire te revienne encore en ce jour. Seigneur, bénis chacun de nous en ce lieu, Père. Que cette parole tombe dans une terre profonde, Père éternel. Porte du fruit, 60 et 100, Père éternel. Seigneur, pour que la gloire te revienne. Père, là où le diable pense qu'on a échoué, c'est là, Père éternel, que tu nous confondras. Parce que tu es Dieu, Père, et le monde est entre tes mains. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.